voilà donc un ciné-roman qui ne va pas sans arbitraire et hasard. À l'instar des rôles successifs, des acteurs retenus ici qui ne relèvent pas d'un plan préétabli, mais d'imprévus, de hasard, de rencontres, d'amitié, d'inimitié, des décisions de la production, des choix de la distribution. Si le cinéma est souvent le fruit du hasard, il en va ainsi de ce ciné-roman, celui d'une France qui se fait tout un cinéma et qui n'est pas sans éclairer l'histoire elle-même, une histoire fabriquée, faite d'oubli, de recouvrement, de silence, de captation et de détournement. Olivier Mongin est ce soir notre invité à l'occasion de la publication de son nouveau livre intitulé « Visages de la France, les acteurs, images d'une nation, un ciné-roman ». Et comme chaque soir, nous allons commencer en musique avec quelqu'un dont il est question dans ce livre et qui nous chante magnifiquement Barbara.
Une petite cantate du bout des doigts, obsédante et maladroite monte vers toi. Une petite cantate que nous jouions autrefois, seul je la joue maladroite. Cette petite cantate fa sol do fa n'était pas si maladroite comme c'était toi. Les notes couraient faciles, heureuses au bout de tes doigts. Moi j'étais la malhabile. Mais tu es parti fragile vers l'au-delà. Et je reste malhabile fa sol do fa. Je te revois souriante assise à ce piano-là, disant bon je joue toi chante, chante, chante là pour moi. Si mi la ré, si mi la ré, si sol do fa. Si mi la ré, si mi la ré, si sol do fa. Oh mon ami, oh ma douce, oh ma si petite à moi. Mon Dieu, qu'elle est difficile cette cantate sans toi. Une petite prière, la 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 la, avec mon cœur pour la faire et mes dix doigts. Une petite prière et sans un signe de croix. Quelle offense, Dieu le Père, il me le pardonnera. Si mi la ré, si mi la ré, si sol do fa. Si mi la ré, si mi la ré, si sol do fa. Les anges avec leurs trompettes, la jour au jour et pour toi. Cette petite cantate que nous jouions autrefois. Les anges avec leurs trompettes, la jour au jour et pour toi. Cette petite cantate qui monte vers toi. Cette petite cantate qui monte vers toi. Si la ré, si la ré, si sol do fa.
Le catholicisme social a-t-il été important dans votre éducation quand vous étiez adolescent, Olivier Mongin ?
Non, pas le catholicisme social en tant que tel. J'étais dans un collège, là, pas très loin d'ici, Saint-Jean-de-Passy, celui qui jouxte Franklin. Donc c'était un des collèges pas trop obsédés par le social, c'est le moins qu'on puisse dire. Par contre, ce que je peux regretter, c'était des collèges où on nous enseignait extrêmement peu la Bible, peu les textes. On avait du catéchisme, on avait des dogmes. C'est tout le problème du catholicisme par rapport au protestantisme. Et moi qui ai eu la chance d'être un peu l'élève et le proche de Paul Ricoeur, grand penseur, non pas protestant, penseur en tant que tel, mais d'origine protestante. Un des mes gros drames, c'est de ne pas avoir été suffisamment proche de, je dirais, de l'imaginaire biblique qui en plus aujourd'hui résonne beaucoup dans le monde puisque on comprend pas grand-chose aux États-Unis si on comprend pas l'imaginaire biblique. Et puis bon, au fond, le biblique, c'est un récit, c'est des récits, c'est des temporalités. Et effectivement, cette éducation catholique était une éducation de ce point de vue-là très frustrante. Mais je me suis rattrapé parce que débarquant Henri IV en 68, j'ai découvert tout ce que je ne connaissais pas, un peu trop rapidement, mais c'était très bien, c'était initiatique.
Et aujourd'hui, vous lisez l'Ancien Testament ?
Bah depuis que je suis plus tranquille, non pas retraité, mais un peu tranquille. Non, c'est surtout l'Ancien Testament. Là encore porté par Paul Ricoeur, beaucoup d'autres, Paul Beauchamp qui est un très très grand connaisseur, Frédéric Boyer qui est d'ailleurs l'un des éditeurs de ce livre. Je fais l'effort, de moi qui adore la littérature et les textes, de retravailler effectivement cet imaginaire biblique qui manque beaucoup, je pense, à la société française, qui est une société qui est très rationaliste par ailleurs, qui est un peu prise entre, je dirais, la raison et la déraison, entre Nietzsche et Kant. Et effectivement, l'imaginaire biblique est pour moi très important. Mais là, c'est un peu une nouveauté, mais c'est fantastique parce que l'histoire du monde, elle est portée par cela. Et puis, bon, elle nous permet de...
On va pas demander quand même au président de la République de prêter serment sur la Bible. Vous aimeriez cela, vous?
Ah non, pas du tout. Ce que je dis simplement, c'est que par rapport à une éducation un peu rationaliste qui tirerait un peu plus vers des gens comme Spinoza ou les scientifiques, on en entendait tout à l'heure là, qui parlaient de la Lune à France Inter. Et je dis simplement que une éducation plus portée sur une littérature qui soit pas simplement la littérature qui est produite aujourd'hui et qui est portée par le grand récit biblique, qui est un récit universel et qui touche toute la question des prophétismes, et dans les prophétismes il y a tous les prophètes, et même Mahomet était un prophète reconnaissant la tradition prophétique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir des types de temporalité, des types de rapport à l'histoire. Et donc, dans un moment où on est un peu dans un monde soi-disant de fin des grands récits, dans un monde où pullulent les petits récits, bah, peut-être que le mouvement des Gilets jaunes, c'est des petits récits qui essayent de créer un récit, où on voit effectivement qu'il est très dur de créer un récit commun. Le récit biblique est quand même une source. La Bible, c'est quelque chose de très important. En ce sens-là, je suis plus peut-être. On a été trop grec, moi personnellement, et j'aime bien un écrivain que vous aimez sûrement beaucoup, Pierre Michon, dit toujours que pour lui, la Bible, lui qui est certainement pas un croyant intempestif, la Bible est pour lui ce qui le travaille le plus en permanence, beaucoup plus que la Grèce qui nous raconte un éternel retour, celui d'Ulysse. Aujourd'hui, on peut pas faire dans l'éternel retour. Le problème, c'est que il faut effectivement réinventer de l'histoire. Et cette question m'importe parce que refaire du récit qui soit pas qu'un pullulement de petits récits, c'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui dans la société française. Alors on voit bien que la question de l'identité nationale est tout à fait décisive, centrale, mais moi je pense qu'il faut surtout sortir un peu d'un discours qui consiste à dire on est dans un monde postmoderne, on est dans un monde des petits récits, on est venu après, il n'y a plus d'histoire. Il faut repenser la manière dont nous sommes de l'histoire. Il y a toujours de l'histoire. Je pense que depuis 2-3 ans, la manière dont on vit au rythme de Trump, d'Erdogan, de Poutine, là il se trouve que j'arrive d'Irak et du Liban, on est dans des sociétés qui sont portées par une histoire, et une histoire qui prennent dans la figure de manière extrêmement violente. Donc il faut arrêter ce discours d'une espèce de monde post-historique dont la société française serait une illustration. Personnellement, je n'y crois pas du tout. Alors la Bible, ça m'aide à comprendre la variété des modalités des récits. Et ça, c'est très important. Il n'y a pas qu'un type de récit, bien entendu.
Introduire la civilisation des religions à l'intérieur de notre imaginaire politique, mais aussi peut-être dans l'éducation. Alors qu'on voit que toutes les tentatives qui ont été faites à l'école ont toutes été, hélas, infructueuses.
Oui, mais je pense comprendre que les religions passent pas nécessairement par des dogmes, mais aussi par des récits, par des histoires dans lesquelles on peut s'inscrire, me paraît extrêmement important. Titre personnel, d'ailleurs, si moi je suis resté...
Vous êtes croyant, vous, Olivier Mongin?
Vous exactement anticiper votre réponse. Moi, si je suis resté croyant, c'est pas du tout par respect de dogmes ou pratiques. Quand on a été dans des collèges un peu durs comme Franklin ou Saint-Jean-de-Passy, on dit en rigolant, on est sûr de devenir athée ou de perdre les croyances. C'est des collèges qui vous cassent un peu. Moi, c'est pas ça du tout. Moi, j'ai eu la chance, et c'est mon parcours intellectuel, j'ai eu cette chance immense, intellectuelle, concrète et je dirais spirituelle au sens fort du terme, mais pas du tout nécessairement religieux. Moi, je pense que ce qui fait la force d'une foi, c'est les témoignages qu'on précédé qui vont faire que vous croyez à des gens que vous admirez et qui vous font croire que... Moi, si je suis resté croyant, j'ai eu la chance de connaître très jeune Michel de Certeau, qui m'amène à la revue Esprit d'ailleurs, via d'autres personnes, de connaître Stanislas Breton, moins connu, mais qui était un théologien tout à fait remarquable, qui enseignait à l'école normale supérieure, qui était un ami d'Althusser, un grand spinoziste, et puis de connaître Paul Ricoeur. Mais après, je peux donner des gens qui sont moins connus. Mais je pense que la foi passe aussi par le témoignage. Et aujourd'hui, je pense que cette question du témoignage est tout à fait importante.
Je vous propose d'écouter Paul Ricoeur, qui va évoquer son souci de dissocier ses réflexions philosophiques de ses croyances religieuses. C'est une archive INA du 13 septembre 1993. Je rappelle, Olivier Mongin, que vous avez écrit un livre sur l'œuvre de Paul Ricoeur et qu'il a été une figure tutélaire à l'intérieur de votre parcours. On écoute la voix de Paul Ricoeur.
Le problème, on pourrait le présenter très simplement, le caractère historique de la foi biblique et le caractère universel, ou d'ailleurs partiellement universel, de la raison grecque et puis de la raison cartésienne, kantienne, hegelienne, etc. Et alors, le débat est en somme entre ces deux allégeances, mais qui sont hétérogènes, n'est-ce pas, qui ne sont pas à plat, je dirais, comme si j'avais à choisir entre deux philosophes, Platon et Aristote. Le rapport entre un psaume et une tragédie grecque n'est pas de la même nature. Alors, j'espère que c'est une source de richesse, mais je le dis en passant, peut-être parce que quelquefois je suis irrité quand je vois que dans la presse ou autrement, on me présente obstinément comme un philosophe protestant. Et alors, moi j'ai envie de dire philosophe et protestant.
Et vous aussi, peut-être.
Oh ben moi,
philosophe
été...
et croyant.
Oui, bien entendu.
Mais les deux choses sont distinctes.
Bien sûr, enfin en tout cas, on ne peut pas juger le travail qu'on fait dans une revue. Moi, j'étais longtemps directeur de la rédaction d'Esprit, donc le responsable intellectuel avec mes amis, bien sûr, on travaillait collectivement. Mais il n'y avait rien de plus insupportable dès qu'il y avait une polémique, et Dieu sait s'il y en a eu, puisque dès 95, on avait soutenu Monsieur Juppé, donc des questions qui ressortent régulièrement, où on était tout de suite attaqués comme effectivement des gens marqués par leur origine catholique et autres. Et d'ailleurs aussi dans le rapport avec le judaïsme, le fait d'être catholique est souvent quelque chose qui se retourne contre vous. Ce qui est paradoxal dans mon cas, puisque je crois avoir fait l'un des premiers, je ne dis pas que c'est le premier, travaux sur Emmanuel Lévinas, une maîtrise en 71-72. Tous mes amis étaient althusseriens, et marxistes, etc. On était trois à suivre les cours d'Emmanuel Lévinas. Aujourd'hui, vous savez, je n'ai pas besoin d'insister, l'importance de cette pensée tout à fait remarquable. C'est Michel de Certeau qui m'avait dit... je voulais faire, je ne citerai pas le philosophe, un travail sur un philosophe contemporain. Il m'a dit, Olivier, il faut prendre des textes qui résistent, des textes qui résistent. Il m'a fait lire, effectivement, les grands textes de autrement qu'être, les grands textes de Lévinas. Et là, vous aviez, et j'adore cette idée, je l'emploie extrêmement souvent, prendre des choses qui nous résistent et non pas se faire plaisir avec des choses où on se sent communiquer sans difficulté.
Je vous propose d'écouter la voix d'Emmanuel Lévinas. Emmanuel Lévinas, qui a beaucoup compté pour vous, qui continue à beaucoup compter pour les jeunes qui le lisent beaucoup et qui le relisent beaucoup. Et ça, vraiment, ça fait très, très plaisir. Des numéros spéciaux sur Emmanuel Lévinas ainsi que sur Paul Ricoeur sont publiés régulièrement. Tous leurs livres sont en version de poche. Emmanuel Lévinas, qui d'ailleurs a tenu pendant très longtemps un séminaire autour de l'Ancien Testament, nous allons écouter la voix d'Emmanuel Lévinas à propos du temps et de la solitude de l'être. C'est une archivina du 5 mars 1981.
La solitude était le thème très existentialiste. Et à l'époque, l'existence était surtout le désespoir, la solitude, l'angoisse. L'isolement par l'angoisse, dans l'angoisse, c'était le thème répandu déjà. Et dans ce livre, il y a une tentative de sortir de la solitude. Et la première sortie étudiée est une sortie vers le monde, dans la connaissance, dans le savoir. Et mon effort consistait à montrer que le savoir est en réalité une immanence et qu'il n'y a pas de rupture de l'isolement de l'être dans le savoir, que dans la communication du savoir, on se trouve à côté d'autrui, on ne se trouve pas directement en rapport avec autrui. Et le rapport direct avec autrui n'est pas non plus la thématisation d'autrui et la considération d'autrui comme si c'était un objet connu. Il s'agit de savoir si le fait d'être n'est pas ce qu'il y a de plus privé. L'existence, c'est la seule chose que je ne peux pas communiquer. Je peux la raconter, mais je ne peux pas partager mon existence. La solitude apparaît ici comme l'isolement contenu dans l'événement même d'être.
Que vous a apporté Emmanuel Lévinas ? Et c'était un maître, même s'il détestait cette idée d'être un maître, il faisait de la philosophie une manière d'exister et de mieux comprendre sa propre existence.
Oui, tout à fait. Là, c'est très émouvant pour moi de l'entendre. J'adorais cette voix. Vous entendez cette voix étrange,
presque une
mélopée. On écoutait Depardieu chanter. On voit la puissance de la voix. Et c'est un thème, moi, qui m'intéresse beaucoup, ce que c'est que cette voix. Il y avait une respiration chez Lévinas extraordinaire. Parce que la voix, c'est quoi? C'est une inspiration qui expire, et au fond, c'est le souffle qui sort du corps, on ne sait pas d'où. Mais chez Lévinas, on voyait bien que ce souffle qui sort des borgmoriques corporelles, bah finalement, c'est toute une histoire qui est racontée. Et puis par rapport à ce qu'on disait précédemment, on voyait bien que la question du récit est là, est là. Et puis moi, ce que j'aimais beaucoup chez Lévinas, je ne suis pas juif, mais en ce sens-là, je me sens juif, c'est l'exercice talmudique, c'est la question de l'étude permanente que moi j'aime beaucoup, cette idée qu'il faut, et ça ferait du bien dans des mondes religieux ou pas religieux d'avoir un petit peu cette permanence de l'exercice talmudique et cette espèce d'obligation à l'étude, que à la Torah bien sûr, mais on pourrait trouver un autre nom. Et Lévinas, moi, m'a beaucoup appris. J'allais souvent dans sa maison à l'église d'Auteuil, pas loin d'ici, et deux trois fois avec Paul Ricoeur, et les entendre discuter l'un et l'autre, le protestant et le juif, je veux pas les marquer religieusement là, mais de parler philosophie, c'était pour moi des souvenirs tout à fait remarquables, quoi. Donc j'ai eu cette chance là aussi d'être porté par des gens que j'admirais. Donc tout de suite j'ai compris que je ne serais ni Platon, ni Lévinas, ni Ricoeur, c'est très bien. Et donc parce que je pense que par rapport au débat d'aujourd'hui où tout le monde doit être un peu comme tout le monde, je dis ça sans aucun mépris, au contraire, moi j'ai appris à pouvoir hiérarchiser ma manière d'être, de penser. On sait ce qu'on peut faire et pas faire. Je sais que je peux être meilleur que d'autres à certains endroits. Je sais aussi que j'ai eu la chance d'avoir des grands, mais qu'on pouvait voir, mais à l'époque on les voyait en tout petit comité, on les voyait le soir chez eux. Et un autre qu'on a évoqué récemment dans la revue Esprit, qui est Claude Lefort, c'était la même chose, qui venait d'un tout autre monde. Mais cette chance-là, aujourd'hui, c'est vrai, quand moi je m'énerve un peu par rapport aux jeunes générations intellectuelles, je dis, nous on a eu cette chance incroyable de travailler en proximité avec des gens, je dis pas qu'ils étaient meilleurs que nous, mais que l'on respectait totalement. Et ça, c'est quand même quelque chose de fondamental. De ce point de vue-là, moi, la hiérarchie ne me faisait pas peur. Il y avait pas de maître et de disciple, mais il y avait la reconnaissance d'une supériorité.
Et c'était un temps où les intellectuels, qui étaient des maîtres pour notre génération, acceptaient avec beaucoup de bonheur de partager du temps. C'était pas quelque chose qui se faisait ex cathedra, c'était quelque chose qui était amical et qui se faisait sans crier gare. C'était extrêmement naturel. Vous venez d'évoquer le nom de Claude Lefort. Il se trouve que la revue que vous avez dirigée pendant très très longtemps et à laquelle vous continuez de collaborer, qui s'intitule La Revue Esprit, qui est une des grandes revues intellectuelles d'aujourd'hui, qui va d'ailleurs peut-être devenir une des rares, puisque nous avons appris avec consternation il y a à peu près un mois et demi que la revue Les Temps Modernes disparaissait d'un trait de stylo et d'un seul trait, que ça n'a pas fait beaucoup de bruit dans le paysage médiatique, alors que c'était une des grandes revues avec Esprit qui avait structuré le temps du politique depuis plusieurs décennies. Eh bien, votre revue Esprit vient de rendre hommage ce mois-ci à Claude Lefort. Claude Lefort, je vous propose de l'écouter. C'était un philosophe, c'était quelqu'un qui nous permettait de comprendre notre contemporanéité, qui nous permet de comprendre pas seulement le politique, mais aussi la politique. Il va s'exprimer à propos de l'individu. C'est un extrait d'une émission du 12 avril 1996.
Mais ce n'est pas seulement une société d'individus, mais c'est une société où les, ce qu'on appelle les individus, ont à être des individus. C'est ce que je rendais par l'idée d'une mise en demeure. Ils ont à l'être. Alors, c'est cela qui me paraît le plus précieux des droits de l'homme, et c'est ça qui me paraît le plus précieux, enfin, l'une des choses les plus précieuses de l'avènement de la démocratie. Mais rien ne nous fait dire, c'est pourquoi je parle de la détermination, en l'absence d'un garant ultime, qui était, disons, le prêtre, le seigneur, le roi, la référence à Dieu, ou bien la sagesse, même l'ordre de la nature, n'est pas, en dehors d'un garant ultime, finalement, il y a ce grand risque de prendre en charge, ce qu'on pense. Et de le prendre en charge, disons, face aux autres. Et il me semble que c'est la société démocratique.
Ben, je crois qu'il a raison. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment la pensée de Claude Lefort, qui était un des piliers d'une autre revue qui s'intitulait Socialisme ou Barbarie, a été un des plus grands analystes de la démocratie En ce moment, on vit un questionnement de la définition même de la démocratie, du vivre ensemble. Je crois personnellement, mais vous aussi, je crois, Olivier Mongin, que ces penseurs-là ont beaucoup de choses à nous apporter, même s'ils ont disparu physiquement. Leurs textes sont là et leurs analyses de la fragilité de la démocratie peuvent être vitales aujourd'hui.
Oui, oui, mais je suis très sensible à toutes ces archives, gens que j'aimais beaucoup, à ces voix aussi, très fortes. Mais le fort, justement, j'ai écrit un article qui s'appelle « Aujourd'hui », parce que moi, rien ne m'énerve plus que ce que je dirais la muséification des auteurs, la patrimonialisation. Et le fort est un des auteurs qui a le plus à nous dire de ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il nous a appris ce qu'était le totalitarisme, mais en lien avec la démocratie, au sens où celle-ci peut, non pas recréer du totalitarisme de type stalinien, ce serait totalement idiot de parler comme ça, mais elle-même menace toujours de recréer effectivement des conditions de servitude de tout autre type. Et le fort, en le relisant, moi je retire, pour ne pas être trop long, deux choses. D'une part, on a publié tous ses textes sur 20 ans de grands textes qu'il écrivait régulièrement sur l'actualité. D'abord, c'est des gens qui écrivaient sur l'événement et qui se contentaient pas de faire des analyses sur des chiffres, des sondages et toute la journée avec des petites interprétations. C'est-à-dire ces gens qui collaient pas au réel. Hein, on parle de médiation, justement, la crise des médiations, crise de la présentation, crise des médiations. Ça vaut pour le politique, mais ça vaut autant pour le champ intellectuel. Bien entendu, le problème de la présentation, il est aussi esthétique, intellectuel, il n'est pas que politique. Et le problème des médiations, justement, les revues, avant de revenir à Lefort, les revues, c'était des médiations entre le monde de l'édition, le monde de l'université et le journalisme. Moi, je suis arrivé à Esprit, les gens du journal Le Monde venaient à des réunions à Esprit, nous, on devenait éditeurs aux éditions du Seuil, on faisait le lien entre le monde un peu des auteurs, le monde de la presse, et aujourd'hui, chacun dans son coin. Chacun dans son coin, et les revues qui effectivement faisaient médiation, c'était aussi le cas des temps modernes, dont je regrette aussi la disparition, parce qu'on a très peu d'outils de ce genre-là, et il y avait des gens assez remarquables comme Maniglier et d'autres qui étaient susceptibles de reprendre cette revue. Le problème, c'était pas de continuer les temps modernes de Lanzmann, de Simone de Beauvoir ou de Sartre, c'était peut-être de réinventer quelque chose, mais ces outils manquent énormément. Ces outils manquent énormément.
Y compris pour le fonctionnement de la démocratie et la compréhension de ce que ça veut dire et vivre en démocratie.
Et pour ne casser un peu aussi l'idée expert, qui est souvent le fait d'universitaire, et journaliste basique, réel, etc. Les revues, c'est justement, ça cassait un petit peu ce face-à-face de l'expert et de celui qui colle au réel. On peut pas coller au réel. Le réel, on a besoin de l'interpréter. Ce qu'on a dit depuis le début, de faire du récit. Alors, d'un mot, pour revenir à Lefort, Lefort, il dit constamment deux choses, et moi là-dessus, je suis intraitable. Il faut arrêter de parler du monde de la mondialisation à travers la seule grille économique. D'ailleurs, ce qu'on est en train maintenant de découvrir, c'est que c'est plus Monsieur Trump et les États-Unis qui portent la mondialisation économique, mais Monsieur Xi Jinping. Et si on va un peu plus loin, on comprend quand même que la mondialisation économique, pour qu'elle marche, il faut un État très fort. Ben, l'État fort, c'est le Parti communiste chinois. Hein, faut pas oublier tout ça. Et moi, je suis effondré de voir qu'il y a un déni du politique. Mais le politique, c'est la force, c'est le pouvoir. Et aujourd'hui, il est évident que la question de la force est revenue une question centrale. Ça ne veut pas dire qu'il y a du totalitarisme. Mais comprendre ce qui se passe aujourd'hui, c'est comprendre Erdogan, c'est comprendre Poutine, c'est comprendre Monsieur Trump, qui est un homme d'affaires, qui n'a
comprendre
même pas
comprendre au sens de analyser, pas analyser donner son assentiment.
Et de faire en sorte, bien sûr, qu'il y a des problèmes qui sont liés à l'homo economicus, à la production, à la croissance, et on est tous d'accord là-dessus, et à la redistribution. C'est le débat avec les Gilets jaunes. Mais la question politique, qui est celle de la force, est fondamentale. Et aujourd'hui, la force, elle est un peu partout. Comment voulez-vous comprendre Erdogan avec un schéma qu'il expliquerait que par le capitalisme? Regardez tout ce qui se passe aussi, Brésil, Venezuela. Il y a un retour en force du politique à travers la question du pouvoir et de la force, dont parlait Simone Veil, dont parlaient tous les gens qui nous ont aidés à penser le politique.
Alors, la violence est une de vos thématiques de prédilection depuis longtemps en tant qu'intellectuel engagé. Olivier Mongin, pourquoi et comment expliquez-vous cette phase de massification de la violence dans certains pays ?
Oui, enfin, la violence, il y a la violence visible, il y a la violence invisible, il y a la violence contenue. Effectivement, il y a certainement moins de violence effective. Mais le problème de la violence, c'est aussi ce qu'on appelle la violence ingérée en soi, qui peut passer par la drogue, par mille choses, par des addictions. L'Amérique a sa violence qui passe par la drogue et qui pose les problèmes qu'on sait de l'autre côté du mur. Donc, il y a des questions et qu'on voit dans toute la littérature américaine. Thomas Pynchon est bien plus important que tout philosophe basique pour comprendre ce qui se passe aux États-Unis. La littérature sud-américaine vous permet de comprendre la manière dont des mômes tombent dans la violence qui a une part d'inhumanité. Alors, est-ce que nous, on est protégés contre la violence? Pas plus que d'autres, je pense, et de ce point de vue-là, il est évident que la question du terrorisme, qui n'est pas nouvelle, moi j'avais fait un livre qui s'appelle « Violence des images », où on voyait bien que le personnage dans les scénarios américains du terroriste, c'est bien sûr pas celui de Daesh et de Qaïda, mais le terroriste est un personnage permanent du cinéma des années 70. La question du terroriste, c'est-à-dire celui qui effectivement pratique une violence qui n'est pas une violence frontale, qui vous permet effectivement d'avoir un rapport physique. C'est la violence qui peut être guerrière, mais qui est une violence de champ de bataille. Aujourd'hui, on a une violence qui n'est plus une violence de champ de bataille. C'est une violence, la violence terroriste, c'est une violence qui vous prend à revers, qui vous prend des coups dans le dos. Et d'ailleurs, pour revenir aux questions politiques, on célèbre pas mal Raymond Aron par les temps qui courent. Je voyais la une du Point tout à l'heure. Mais Raymond Aron avait raison de dire, on est habitué à voir des États qui peuvent se faire la guerre entre eux, mais qui pratiquent la paix civile à l'intérieur de chez eux. Aujourd'hui, c'est lié certainement à la lutte contre le terrorisme, où on a de manière extrêmement dangereuse, ça ne veut pas dire qu'il ne fallait pas pratiquer une lutte contre le terrorisme, je suis très clair. Mais comment voulez-vous avoir une ligue antiterroriste avec effectivement des gens qui pratiquent des autocrates qui pratiquaient eux-mêmes la terreur dans leur propre pays? Cela pose des questions. Quand on défile avec Monsieur Poutine and co, cela pose des questions qui sont tout à fait tragiques. Parce qu'aujourd'hui, le problème de la violence, il est interne, et effectivement, le problème des nations, c'est de faire semblant de ne pas être en guerre. Alors, ça passe par mille choses. Mais là, effectivement, moi, j'arrive de Bagdad, où vous ne pouvez pas bouger sans avoir un gilet pare-balles. Vous comprenez très bien ce que c'est que la dureté de cette violence qui, aujourd'hui, n'a pas disparu. Moi, c'est d'aller en 82, après l'invasion israélienne au Liban. On montait un peu vers le temps heureux, 89, des démocraties, pacification du monde. J'ai compris là, à Beyrouth, c'est là où j'ai fait la connaissance de Michel Seurat, qui a écrit « L'état de barbarie », qui est un livre qui a toute son actualité pour comprendre ce qu'a fait la Syrie, le pouvoir syrien. Il n'a tenu qu'à faire la guerre. C'est un pouvoir qui ne tient qu'à faire la guerre.
Et qui continue.
Et qui continue, bien entendu. Et là, j'ai compris, bien entendu, que chez nous, la violence n'est pas la même qu'ailleurs, mais que la question de la violence, elle n'était pas enrubannée, elle n'était pas en train de disparaître. Et le problème de la démocratie reste toujours très simple. Pour ça, moi, je me passionne pour les villes, les printemps arabes, toutes les questions urbaines. Le problème de la ville, il est tout simple, c'est créer des espaces où on peut avoir des règles pour ne pas s'entretuer. C'est-à-dire avoir un consensus qui nous permet d'avoir des dissensus humains. La démocratie, on a cité Ricoeur pas mal, il appelait ça le consensus conflictuel. J'ai des règles pour avoir des conflits. Aujourd'hui, ça c'est très lié à l'Europe, au fonctionnement de l'Europe, très certainement, on est soit dans le consensus plus ou moins mou, procédural, juridique, en dehors de toute historicité, ou alors du dissensus. On est pris entre consensus, dissensus, en permanence. On le voit d'ailleurs dans le mouvement actuel, que je qualifie pas nécessairement de violent au sens strict, pas du tout, mais on a cette tendance, mais qui est liée aux politiques et comme aux non-politiques, d'être soit dans un discours on est d'accord, soit on n'est pas d'accord. Le problème, c'est d'avoir des règles qui permettent d'être en désaccord et de discuter, de délibérer. Délibérer, c'est pas simplement d'aller à la base, mettre la radio et puis écouter tout ce que le monde raconte. Je respecte ça. Le problème de Rousseau, qui a été repris par bien des auteurs, le problème de Rousseau, quand on veut passer de la volonté individuelle à la volonté générale, il y a une alchimie et on n'y passe pas directement. Et c'est ce qu'il appelait la question, qui est celle de la formation du jugement. La formation du jugement, elle vaut pour les politiques comme pour le citoyen basique. Mais la grande question que nous avons aujourd'hui, à un moment où le langage est quand même fatigué, à un moment où Internet justement privatise via les réseaux sociaux les liens, etc. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est de créer les conditions de la délibération. Mais pour délibérer, il faut avoir un langage commun. Et moi, c'est ça qui m'inquiète toujours. Je ne sais pas si on a un langage commun la plupart du temps dans beaucoup de domaines quand on discute. Le problème grec, on retrouve les Grecs là, et pas uniquement Jérusalem. Revenons à Athènes. Le problème des Grecs, ils ont pensé la police, la ville comme lieu de délibération. Dès lors que toute la discussion, Platon, Socrate, Aristote, c'est de quoi on parle, comment on parle, qu'est-ce qu'on fait, comment on argumente. Et c'est vrai que Ricoeur, qui était très vite aux États-Unis, il disait toujours, finalement, j'aime pas trop la philo-analytique et tout, elle est ennuyeuse, mais les Américains nous obligent, je dis pas que c'est le cas de Monsieur Trump, on se comprend, nous obligent toujours à argumenter, ce que nous ne savons pas toujours bien faire, nous, Français.
Alors, vous étiez directeur de la revue Esprit quand vous avez vu arriver, par l'intermédiaire de Paul Ricoeur, un jeune homme qui a demandé à assister à vos réunions. Vous avez accepté. Ce jeune homme est aujourd'hui président de la République. Nous traversons peut-être une crise, en tout cas un questionnement de la démocratie représentative. Vous avez vu sans doute notre président sur tous les écrans de télévision, pas plus tard que hier soir, aller porter sa bonne parole et essayer de répondre à toutes les questions des citoyens et des élus dans différents registres. Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire pour structurer et faire perdurer ce lien de la démocratie, Olivier Mongin ?
Qu'il ait un peu changé de méthode et qu'il ait tiré les conclusions quand même de ce qui s'est passé avec les gélos, je me paraît assez positif. Et je ne ferais pas qu'une analyse, comme c'est fait par beaucoup, purement utilitariste. De toute façon, il n'a pas le choix, il le fait pour s'en sortir, etc. Le problème, moi, que j'ai avec Emmanuel Macron, j'ai fait un article dans commentaire à l'automne là-dessus, donc pas dans Esprit d'ailleurs, et je le connais quand même assez bien. Je pensais qu'il ferait un effort quand même de pédagogie beaucoup plus important, justement sur la manière dont la France est inscrite dans un moment historique particulier, qui est celui de la mondialisation, qui est bien entendu, on l'a compris, on l'a évoqué, qui n'est pas celui de la mondialisation heureuse économique. Et le moment historique à comprendre, c'est celui qui fait que la Chine aujourd'hui joue un rôle extrêmement important, que les États-Unis jouent effectivement une carte qui n'était pas la carte habituelle. Et je trouve qu'il y a une très grosse difficulté de sa part. C'est peut-être lié à la jeunesse. La jeunesse a été saluée en ce qui le concerne. Mais là, je ne parlerai pas d'immaturité, mais on voit très bien qu'il y a un manque d'inscription géographique et historique qui, moi, me fait question. D'ailleurs, il sait très bien ce que je pense, mais qui fait un peu problème, parce que je ne vois pas comment on peut pédagogiser sur des questions, c'est-à-dire inscrire dans un contexte, c'est ça la question.
Le grand débat fera-t-il récit national, pour employer votre expression tout à l'heure.
C'est un peu ça, mais le récit national, aujourd'hui, il n'a de sens qu'inscrit dans une réflexion sur l'Europe et sur le monde. Et moi, je fais partie des gens, puisque je travaille pas mal sur l'urbanisation, qui pensent que l'Hexagone, d'une certaine manière, il subit déjà des pressions externes de tous ordres. Je vais commencer à raconter ça. Et que si on comprend pas ce qui est le négatif, toutes ces pressions, on ne peut pas réagir simplement au niveau hexagonal. Et c'est ça le gros problème. Et ça, c'est un essai que je voudrais faire assez vite. On est quand même enfermé dans un hexagonalisme. Et ça, moi, ça me fait problème. Parce que de toute façon, on n'échappe pas. Les grands penseurs du 19e siècle, que ce soit libéraux ou les marxistes, c'est des gens qui prenaient en compte le négatif. Dans Hegel, le grand penseur du 19e, c'est quelqu'un qui pense le négatif. Pour changer le monde, il faut prendre le négatif. Si vous prenez pas le négatif, vous savez pas ce que vous voulez changer. Mettre de l'utopie, mettre des changements automatiquement n'ont de sens que si on sait ce qui ne marche pas. Et aujourd'hui, c'est les aliénations qu'il faudrait remettre. On parlait de Claude Lefort. Claude Lefort, il dit très bien que les idéologies n'ont pas disparu. On fait aujourd'hui comme si on est dans un monde sans idéologie. Non, il y a de nouvelles idéologies, et pas uniquement l'idéologie économiste des néolibéraux, etc. Mais là, Macron, qui est quand même très solitaire, qui est très seul, le problème, c'est de réinscrire ça dans un discours commun. C'est très difficile. Après, moi, ce que je dis toujours quand même, on est très français, on aime guillotiner la tête du roi. Une fois qu'on aura guillotiné la tête, les responsabilités, elles sont partagées. Je le dis pour les intellectuels, comme tous les autres politiques, c'est toutes les médiations branlantes d'aujourd'hui dont on a parlé, qui sont à revoir. On a chacun du boulot à faire dans notre secteur. L'erreur, ce serait de croire que tout tient au président. Changerait-on de président que les questions restent les mêmes ?
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical d'Olivier Mongin, Cora Vauquer, la complainte de la butte.
« En haut de la rue Saint-Vincent, un poète et une inconnue s'aimèrent l'espace d'un instant, mais il ne l'a jamais revue. Cette chanson il composa, espérant que son inconnue un matin de printemps l'entendra quelque part au coin d'une rue. La lune trop blême pose un diadème sur tes cheveux roux. La lune trop rousse de gloire éclabousse ton jupon plein de trous. La lune trop pâle caresse l'opale de tes yeux blasés. Princesse de la rue, sois la bienvenue dans mon cœur blessé. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes des moulins protègent les amoureux. Petite mendigote, je sens ta menotte qui cherche ma main. Je sens ta poitrine et ta taille fine, j'oublie mon chagrin. Je sens sur ta lèvre une odeur de fièvre, de gosse mal nourri. Et sous ta caresse, je sens une ivresse qui m'anéantit. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes des moulins protègent les amoureux. Mais voilà qu'il flotte, la lune se trotte, la princesse aussi. Sous le ciel sans lune, je pleure à la brune, mon rêve évanoui.
Merci pour ce choix, Olivier. Pourquoi ?
C'était lié à Jean Gabin, de même qu'on a écouté Depardieu, parce que c'était lié, comme le livre porte sur des figures masculines essentiellement, mais on peut expliquer pourquoi. Gabin, Delon, Belmondo et Depardieu, je trouvais très bien, surtout qu'il a une voix très très spéciale, d'avoir Depardieu en lien avec Barbara et de rappeler que c'était un chanteur. Beaucoup de comédiens ou de comédiennes sont chanteurs ou chanteuses. Pensons à Jeanne Moreau, magnifique chanteuse. Et Gabin, n'oublions jamais, c'est ce que j'explique un peu dans le livre, Gabin qu'on connaît, nous, le dernier Gabin, en tout cas ma génération, un peu lourd, un peu statufié, qui est là, avec la bande, avec sa bande, la bande à Gabin, qui est aussi la bande à Audiard. Gabin, au départ, il arrive, et je pense que c'est tout son génie, en tout cas dans l'entre-deux-guerres, c'est quelqu'un quand même qui tourne entre 30 et il meurt en 78, 50 ans. C'est 50 ans d'histoire française. Mais Gabin, il vient du musical. C'est ça que je voulais évoquer en ayant Cora Vauquer. Il vient du musical, c'est-à-dire c'est un corps dansant, c'est un corps qui danse, qui chante, c'est un corps qui se meut, comme dans une troupe de musical. C'est tout à fait remarquable. Et Cora Vauquer, c'est lié à French Cancan. C'est un des films qui relance Gabin après la guerre. 1954, Jean Renoir, French Cancan. Bah, c'est Jean Gabin, il est un peu assis sur son fauteuil et il veut transformer un petit cabaret qu'il a à Montmartre en l'équivalent de Folie Bergère. C'est toute l'histoire de French Cancan qui termine sur un spectacle extraordinaire où on a un spectacle de danseuses. C'est un ode aux femmes d'ailleurs qu'aime Gabin. Mais on a un Gabin quand même toujours un peu patron, un peu chef, un peu le patron des femmes aussi, pour parler comme ça. Mais on a un Gabin qui renaît après la guerre un peu avant de s'assoupir.
Alors des femmes, il est question tout de même dans ce nouveau livre passionnant, parce que on l'a compris depuis le début de cette émission, vous êtes un être passionné et en tant qu'intellectuel, vous utilisez tous les registres de la sensibilité pour comprendre notre monde. Il peut y avoir le rire, il peut y avoir le cinéma, il peut y avoir la philosophie, il peut y avoir l'anthropologie, il peut y avoir la politique internationale. Tout ça concourt à votre réflexion sur le monde. Mais le corps est omniprésent. Et dans ce nouveau livre, Ciné-Roman, ben vous nous expliquez que s'il n'y a pas beaucoup de femmes, c'est parce que le cinéma était très macho. Cependant, il y en a quand même eu quelques-unes. Écoutez.
Tu la trouves jolie ?
Oui, très.
Et mes chevilles, tu les aimes ?
Oui.
Tu les aimes, mes genoux aussi ?
Oui, j'aime beaucoup tes genoux.
Et mes cuisses ?
Aussi.
Je vois mon derrière dans la glace.
Oui.
Tu les trouves jolies, mes fesses.
Oui. Très. Ça va.
Et mes seins, tu les aimes?
Nous venons d'entendre une scène fameuse et magnifique d'ailleurs de ce film magistral de Godard qui s'intitule Le Mépris de Brigitte Bardot. Vous parlez à l'intérieur de ce livre, Olivier Mongin, et vous expliquez qu'il n'est pas évident de comprendre la double nature de Brigitte Bardot, car elle a allumé le désir, mais elle était sujet et pas forcément uniquement objet de désir.
Oui. Dans le livre, là, j'évoque...
Quand elle faisait du cinéma, je parle
voilà,
pas d'aujourd'hui.
Mais j'évoque des vedettes de cinéma bien connues, là, qu'on a déjà citées. J'essaye de savoir qui est star. Une star, c'est quelqu'un qui occupe à elle toute seule la place. C'est une personne qui occupe à elle toute la place. D'ailleurs, les grandes stars, ce sont des femmes, ce sont des étoiles, ce sont des idoles. C'est les grandes femmes du cinéma américain qui nous font rêver. Les gamins, on allait au cinéma pour rêver dans le noir de la salle. Et en France, c'est vrai qu'on a un cinéma, si on suit l'itinéraire de Gabin, très souvent, il est victime de femmes dans Gueule d'amour, dans pas mal de... Et il y a d'excellentes comédiennes. Il y a Muriel Balin, Annabella, Arletty, après on a Michel Morgan. Mais très souvent, l'itinéraire de ces femmes est difficile parce qu'il y a la guerre qui va intervenir pour diverses raisons. Pour évoquer Daniel Darieux aussi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir qui est la star véritable. Et au fond, chez les hommes, je pense, mais on va pas l'évoquer là. Pour moi, la star suprême, c'est Alain Delon. Alain Delon,
Vous avez une analyse passionnante de Delon.
Delon, il dit...
Parce que vous dites, il ne joue pas, finalement.
Delon
il
dit...
EST.
Il le dit dès qu'il a l'occasion de parler et de faire un entretien. Je ne suis pas un comédien, je suis un acteur. Belmondo, c'est un immense comédien, il peut jouer tous les rôles. Il y a le style Belmondo qu'on retrouve, c'est Scapin. Belmondo, c'est Scapin, c'est Molière, c'est un Italien. Delon ne joue que Delon. Delon ne peut être que Delon. Et n'oubliez pas que Plein Soleil, le film qui le lance, il exige d'avoir le rôle principal qui n'était pas pour lui, celui de Tom Ripley. Et c'est un rôle qui consiste à faire sortir l'autre, Maurice René, à le tuer. Delon, il ne peut que faire disparaître ceux avec lesquels il joue. Ça va être pareil dans La Piscine, ça va être pareil, et même il fait Borsalino avec Belmondo, mais à la fin du premier Borsalino, Belmondo disparaît. Donc le deuxième Borsalino est sans Belmondo. Je reviens maintenant à ce qui est plus important, la star féminine par excellence. Moi, finalement, je fais partie de ces gens un peu de l'élite Bardot, etc. Ben, la star féminine par excellence, c'est Bardot. C'est-à-dire qu'elle occupe l'écran à elle toute seule et quelque part, les hommes, d'une certaine manière, sont pris au piège de Bardot, au bon sens du terme. Et Bardot, il y a « Et Dieu créa la femme », mais le mépris, je pense, est extrêmement important. Bardot, c'est la... Et juste pour bien faire comprendre, Gabin, vous prenez « Touchez pas au Grisby », John Baker, Il y a Jeanne Moreau qui joue, elle sort de la Comédie française, etc. Il lui envoie une taloche fantastique. Elle s'en souviendra toute sa vie, à mon avis. Elle va se venger, comme Isabelle Huppert, qui est violée dans la plupart des premiers films où elle travaille. Et justement, Bardot, c'est celle qui va, avec Gabin, qui est quand même la grande star de l'époque, les cheveux blancs et vieillissants, dans En cas de malheur d'Autant Lara, où joue un vieil avocat. Il est complètement séduit par Bardot. Et à partir de ce moment-là, Gabin, c'est Bardot la star. Elle occupe le terrain. Et Gabin dira, je ne jouerai plus jamais avec une jeune tentatrice. Donc c'est très important de comprendre que la star, féminine ou masculine, c'est une personne qui effectivement occupe le terrain, au bon sens du terme, ou au mauvais, c'est un autre débat.
Eh bien, ce soir, vous êtes notre star, Olivier Mongin. Et d'ailleurs, nous allons demander...
Mais pas tout seul, justement. Oui.
Mais si, vous êtes uniquement et notre unique star. Vous allez comprendre pourquoi, car nous avons demandé à un autre historien, philosophe, qui s'intéresse beaucoup au corps dans la manière de percevoir le monde. Je veux parler de Georges Vigarello. Il va s'exprimer à votre sujet, la star Mongin. Écoutez.
Alors, Olivier Mongin, qui est un ami depuis très longtemps, possède deux grandes qualités intellectuelles qui, pour moi, sont vraiment majeures et remarquables. C'est ce que j'appellerais d'abord un intellectuel générique. Alors, lui, il dirait plutôt intellectuel démocratique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, c'est quelqu'un qui surplombe les questions d'aujourd'hui, les questions à la fois sociales, culturelles, philosophiques. Il écrit avec un très très grand talent sur des sujets extrêmement différents. Il explique aussi en disant que finalement, la grande position philosophique traditionnelle a reculé au bénéfice d'une fragmentation du paysage intellectuel, d'une spécialisation, d'une sorte de système relativement clos de diversité à l'université, ce qui n'est pas évidemment compensé par la communication médiatique. Ça, c'est la première caractéristique qui me paraît vraiment très forte. La deuxième, c'est que c'est un intellectuel que je qualifierais d'éveilleur. Autrement dit, c'est quelqu'un qui perçoit les questions sociales dans une grande mesure avant bien d'autres. Et il y a beaucoup d'exemples qui le montrent, en particulier lorsqu'il dirigeait la revue Esprit. C'est un des premiers à avoir magnifiquement qualifié la société individualiste en montrant à la fois les intérêts, enfin les côtés positifs, si je peux dire, l'affranchissement individuel, l'autonomie, etc. Et d'un autre côté, les immenses dangers qui consistent à ce que le paysage social ne soit plus pris de façon unifiée. Et puis, je ne peux pas ne pas mentionner son travail vraiment extrêmement séduisant sur les comiques aujourd'hui. Comment les comiques qui paraissent finalement dérisoires, secondaires, marginaux, comment les comiques, dans bien des cas, révèlent finalement ce qui est central dans nos sociétés. Et ses livres à ce sujet me paraissent extrêmement forts. Enfin, dernier point concernant le côté d'éveilleur, je crois que c'est un des premiers à s'être intéressé avec une dimension mondialiste et une dimension profonde à s'être intéressé à la ville, en s'interrogeant sur les flux, en s'interrogeant sur la façon dont les maisons sont des unités qui sont inscrites dans des ensembles, mais des unités qu'il faut penser aussi en tant que telles. Et ces livres, en général, le montrent, en particulier une revue qu'il vient de créer sur le problème de l'urbain, que lui dit qu'il faut absolument l'orienter vers l'urbanité. Alors, dernier point, pourquoi moi je me sens proche de lui? Bah écoutez, il y a quand même plusieurs raisons. D'abord, on a beaucoup travaillé ensemble sur un certain nombre de thèmes. Nous avons fait des numéros dans l'esprit avec lui sur le corps, sur le masculin féminin, sur la mode, sur le sport, sur la santé. Donc je me sens proche de lui par les sujets. Je me sens proche aussi de lui, mais de façon beaucoup plus modeste, dans une exigence que j'ai de traiter aussi la diversité. Autrement dit, pour moi, les thèmes du corps doivent être abordés à partir d'angles extrêmement variés. La violence, la beauté aussi, la santé, le travail, le loisir. Et cette façon d'aborder de manière variée ne doit jamais oublier la nécessité de l'unité.
Eh bien voilà, une tresse de compliments, Olivier Mongin. Donc une nouvelle revue. Super.
Oui, qui s'appelle Tous Urbains, qui est édité par les Puffs aujourd'hui, oui. Qu'on fait avec des amis, mais c'est purement un plaisir. On fait ça de manière très, très tranquille, voilà. Mais avec l'idée qu'il faut travailler l'urbanisation à l'échelle générale. Pendant qu'un les Français, ça ne voit pas à quelle vitesse, quand on voyage, va l'urbanisation pas uniquement en Chine ou ailleurs. Voilà, je prends pas d'exemple, mais le problème c'est qu'on a une urbanisation de plus en plus rapide qui se retourne contre l'urbanité. Donc c'est un peu ça notre thématique. Une urbanisation, mais dans ce cadre-là, comment reconquérir l'urbanité. Mais je suis très sensible à des mouvements urbains, mouvements des villes. Il y a ce qu'on appelle les villes refuges, il y a les villes artistes, et il y a même aux États-Unis les villes sanctuaires. Faut pas l'oublier. Faut critiquer Trump, mais il y a des mouvements urbains qui est lié dans un État fédéral au fait que les villes aujourd'hui, il y en a 300 liées à des campus qui refusent que la police fédérale contrôle les migrants sans papiers, etc. Donc c'est très important de comprendre que il y a pas que le pouvoir qu'il faut attaquer. Il y a aussi des mouvements qu'il faut respecter et valoriser. Et dans la suite des printemps arabes, je pense que c'est extrêmement important. Et moi, par exemple, je suis très sensible à tout ce qui se passe à Hong Kong avec le mouvement des parapluies, qui est animé par des jeunes, qui est par des jeunes tout à fait incroyables, comme ce jeune José Chong qui, à 14 ans, met en cause les programmes scolaires et lance tout un mouvement politique. Ce qui est un peu drôle, c'est qu'il dit, il a 22 ans maintenant, je dis un entretien avec lui, il dit, je suis un peu paumé, moi je suis un homme de Facebook, maintenant tous les jeunes en dessous de moi, il a 22 ans, ils sont sur Instagram. C'est un peu comique, mais voilà. Mais c'est des gens tout à fait... Moi, voilà, les gens qui me fascinent.
Ben, merci beaucoup.
Ben, merci à vous.
Merci, Olivier. Merci pour ce très beau livre intitulé « Visage de la France, les acteurs, images d'une nation », un ciné-roman. Vous connaissez Keren Ann, je suis sûre.
Oui, oui, pas très bien, mais je connais, oui.
Dos contre dos dans des draps exquis, chambre sur rue embuée de whisky. Rien ne vaut ce lourd silence qui vient bercer mon imprudence. Tu m'as connu dans les bras d'un autre. Là, tu me connais au millimètre. La conscience peut m'embarrasser, mais je suis lâche. Je veux pas laisser ce regard bleu.
Merci à Loïc Frapsos qui était à la technique ce soir, à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux, à l'équipe Élodie Royer, Anne-Sophie Dazard, Antoine Joubert et à Benjamin Riquet qui a réalisé ce soir cette émission. Et après le prochain journal de la rédaction, vous avez rendez-vous avec Mishka. Où allons-nous et qui allons-nous écouter, mon cher Mishka ?
Alors je vais un peu être mystérieux, c'est très difficile.
Oh, mais vous nous faites à chaque fois le coup du mystère.
Je vais mettre en lumière un homme de l'ombre. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire.
Oh là là,
ah bah oui.
C'est bien parti, hein, vous avez le sens de l'humour. Alors, à tout à l'heure, cher Mishka.